La minute de l'abeille.
La petite abeille lui avoua tout.
La soirée mensuelle de novembre était au conseil départemental pour accueillir Jean-Claude Amezen. Extrait des questions et interviews des apiculteurs, Jean-Claude, Jackie, Joël. Quelques mots d'Olivier Fernandez.
Jean-Claude Amezen, qui est le créateur de l'émission de France Inter sur les épaules de Darwin. Et je le remercie vivement d'être venu, car cela fait 3 ou 4 ans maintenant que l'on essaye avec Jean-Claude de trouver une date adéquate aux agendas pour pouvoir le faire intervenir sur le sujet des abeilles. Il est l'auteur donc de l'émission sur les épaules de Darwin sur France Inter, qui est l'émission la plus écoutée en France, avec 1,5 million d'auditeurs tous les samedis matins. Médecin, immunologiste, chercheur en biologie, Jean-Claude Amezen a présidé le comité consultatif national d'éthique de 2012 à 2016. Il dirige actuellement le Centre d'études du vivant à l'Université Paris Diderot. Aristote disait de l'abeille, l'objet est petit, mais le spectacle est grandiose. Ce soir, la salle est petite, mais l'orateur est immense. La voix de Jean-Claude Amezen n'est pas celle d'une doctrine incantatoire. Elle est un chemin de terre nous permettant d'entrer dans la forêt du savoir millénaire. Son raisonnement est clair et conséquent. Telle une abeille, ses recherches ont un butinage mellifère qu'il façonne consciencieusement pour en donner le meilleur miel aux auditrices et auditeurs de France Inter. Alors ce soir, chères auditrices, chers auditeurs, je vous invite à applaudir Jean-Claude Amezen.
Bonsoir monsieur, je vous remercie beaucoup pour la qualité de votre intervention. Et je voudrais savoir, vous, en tant que scientifique, est-ce que le monde scientifique peut arriver à convaincre les élus, petit à petit, de la portée de leur voix? Voilà.
Je ne pense pas que les scientifiques aient pour objectif, en tant que scientifiques, je ne parle pas en tant que citoyens comme nous tous, de convaincre ou de ne pas convaincre. Ils ont comme objectif de présenter de la manière la plus objective, ou en tout cas la plus ouverte possible, ce qu'on connaît de mieux aujourd'hui sur les problèmes, pour que nous puissions collectivement décider dans la meilleure connaissance des causes. Et donc je ne pense pas que les scientifiques, en tant que scientifiques, doivent être des avocats. Je pense d'ailleurs qu'un des problèmes qu'a eu le GIEC, c'est au début de ne pas avoir tracé une frontière peut-être aussi assez stricte entre le rôle de chercheur qui vise à explorer la manière la plus robuste que nous comprenons de la réalité et qui changera demain, et le rôle de proposant pour les gouvernements, qui est un autre rôle extrêmement important et qui n'est pas celui du scientifique. Donc je pense que les scientifiques doivent, c'est pour ça qu'il faut encourager la recherche scientifique, doivent nous permettre de décider dans la moindre ignorance possible, c'est-à-dire dans la meilleure connaissance de cause possible, mais les choix doivent être des choix démocratiques. Et je crois beaucoup à des sociétés dans lesquelles, et ce en quoi j'ai cru quand j'ai présidé le comité consultatif national d'éthique, dans lequel la collectivité, par un processus émergent d'intelligence collective, par un dialogue, par une réflexion, par un échange, peut inventer des solutions qui ne sont pas préétablies. C'est-à-dire que j'ai souvent l'impression dans le débat français, débat de manière générale, qu'on expose des idées déjà préétablies et puis on demande aux gens de choisir entre ce qui existe. On ne demande pas aux gens, contrairement à ce qui se passe dans certains pays du Nord, d'Europe du Nord, on ne leur demande pas d'inventer ensemble. C'est-à-dire pas simplement de choisir entre ce qui est préétabli, mais éventuellement, pas toujours, mais éventuellement, d'inventer quelque chose de nouveau. Et pour ça, il faut avoir les meilleures connaissances possibles. Et donc le rôle des scientifiques est extrêmement important, mais pas en tant que décideurs, ou en tant qu'agent de pression, en tant que permettant à une société de réfléchir collectivement. Mais pour ça, et c'est compliqué, pour ça il faut pouvoir s'écouter. Et pour pouvoir s'écouter et parler et dialoguer, il faut à la fois être fier de ce qu'on peut apporter comme contribution et être suffisamment humble pour penser que l'autre peut apporter une contribution aussi à laquelle on n'a pas pensé. Et au comité consultatif national d'éthique, j'ai trouvé que les moments les plus intéressants, qui sont évidemment pas très fréquents, c'est ceux où, lorsque nous étions arrivés à une proposition, ou à une réflexion, ou à un questionnement, eh bien, ce à quoi nous étions arrivés était différent de ce que chacun avait proposé au départ. Et je me disais, là, on a vraiment fait œuvre de création. On a apporté quelque chose de nouveau plutôt que simplement de décider entre ce que chacun d'entre nous pensait au départ. Je pense que c'est une chose importante, mais il faut de la connaissance. Plus on a de connaissances, et plus on fait ce qu'on appelle aujourd'hui un choix libre et informé. Et ce choix libre et informé qui dans beaucoup de domaines, dont la médecine, est considéré comme extrêmement important. Le médecin doit m'aider au mieux à me donner les connaissances qui me permettront, moi, de choisir si je le souhaite, et pas à lui de choisir ce qu'il pense que je dois faire, sauf si je m'en remets à lui. C'est la même chose pour moi au niveau collectif. C'est-à-dire, comment faire en sorte que nous choisissions collectivement, librement, en étant le mieux informés. Et c'est là que la science, mais pas seulement la science dans ce domaine, les sciences transdisciplinaires, c'est-à-dire l'écologie, la biologie, la modélisation mathématique, la sociologie, les économistes qui vont nous dire ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Et donc, plus là encore, on met ensemble des disciplines différentes et on les fait réfléchir ensemble, ce qu'on appelle la transdisciplinarité, qui en général est très difficile à obtenir, pour la même raison que je vous disais, parce qu'il faut non seulement être fier de ce qu'on apporte, mais suffisamment humble pour accepter que l'autre fasse une contribution éventuellement aussi importante. Et bien la transdisciplinarité, je dirais que c'est le préalable à la réflexion démocratique collective. C'est-à-dire que les scientifiques eux-mêmes doivent déjà, à mon sens, réfléchir ensemble et essayer parfois de proposer, non pas une solution, mais le meilleur état de lieu, y compris en termes de projection, de prédiction, de ce que la science, à un moment donné, peut mettre en évidence.
Bonsoir. Moi, j'ai une petite question, justement, entre la responsabilité et le pouvoir, par rapport à la reine. Apparemment, est-ce que c'est comme dans la société humaine? Est-ce qu'elle est là uniquement pour reproduire? Est-ce que c'est la plus bêtasse de la fratrie et qu'on lui demande simplement de procréer pendant que toutes les autres font le travail? Ou est-ce qu'elle a la même intelligence, parce que vous avez parlé de l'étude de toute la fraternité autour d'elle, mais d'elle on parle pas, alors en fait elle fait rien, elle ne sait rien faire, mais elle a sur la lignée, quoi, comme dans la dignité humaine, quoi. Là, bon, là au moins on a un point de ressemblance aussi, non?
C'est intéressant ce que vous dites parce qu'elle est dotée d'une grande longévité. Hein. C'est aussi intéressant de voir que lorsque vous regardez une ruche, en fait, la population naît et meurt. Et donc, au bout d'une année, c'est des multiples populations d'ouvrières. La reine est toujours là. Mais la reine s'en va. Et c'est une nouvelle reine qui va rester. Il y a aussi quelque chose d'intéressant, je vous disais que c'était les plus expérimentées qui étaient les éclaireuses. C'est la reine la plus ancienne qui prend le risque de partir et de bâtir une nouvelle ruche. La toute jeune reine, elle reste avec les réserves de miel, les réserves de pollen et une partie des ouvrières. Donc c'est l'ancienne qui prend les risques, que ce soit les éclaireuses ou que ce soit les reines. En ce qui concerne les talents des reines, à ma connaissance, ils ont été moins étudiés que les talents des ouvrières. D'ailleurs, les talents des faux-bourdons, le talent des obéios ont, à ma connaissance, été très peu étudiés aussi. Donc en fait, comme les ouvrières abattent un boulot extraordinaire, comme vous le dites, dans tous les domaines, et font preuve d'une virtuosité de plasticité extraordinaire, elles ont été l'objet des études. Et savoir si, au fond, les abéios qui se font nourrir, qui partent dans leurs aires de congrégation, qui essayent de courser une reine, et qui reviennent lorsqu'ils n'ont pas réussi à la féconder, ont des capacités intellectuelle, mentale, émotionnelle, importante, c'est moins étudié. Tout ce qu'on sait, c'est que, par exemple, quand il faut chauffer, il chauffe avec. Quand il faut ventiler, il ventile avec. Mais voilà. La reine, il y a une telle focalisation, je dirais, sur son rôle de pondeuse, que, à ma connaissance, il n'y a pas grand-chose qui a été étudié. Alors, est-ce qu'elle a des capacités, indépendamment de celles-là, qui sont spectaculaires, parce qu'elle pond une quantité d'œufs pendant 5 ans qui est extraordinaire, les phéromones, mais c'est, j'allais dire, est-ce que c'est... Alors, ce qui est intéressant, c'est que la reine ne dirige pas. Maeterlinck s'était déjà aperçu que ce n'était pas la reine qui dirigeait la ruche. Et il avait une très belle phrase, il disait, l'esprit de la ruche, où est-il? En qui s'incarne-t-il? Et en fait, l'esprit de la ruche, ce qu'on a appelé la sagesse de la ruche, elle s'incarne en personne. C'est la collectivité qui, par l'activité de chacune, la fait émerger. mais l'esprit est dans aucun de ses membres. Et donc la reine, elle participe, ce que vous dites, elle émet des phéromones, jusqu'à quel point est-ce qu'elle influence les autres. Bon, c'est difficile, peut-être que ses capacités d'ailleurs sont tout à fait remarquables, indépendamment de capacités d'abstraction. Mais pourquoi est-ce que nous attachons une telle importance à des capacités d'abstraction? C'est remarquable de les trouver chez des abeilles, mais c'est peut-être pas plus important que d'autres capacités. Hein, donc je crois que vouloir faire une hiérarchie là aussi, il y en a une qui est plus intelligente, l'autre qui l'est moins, l'autre qui est plus active. Encore une fois, ce qui est extraordinaire dans le fonctionnement du ruche, c'est ce qui émerge d'une collectivité dont chacun des membres est différent. Et c'est vrai que la reine est extrêmement différente des ouvrières et des abeilleux. Les abeilleux sont extrêmement différents, les faux-bourdons, des ouvrières, ne serait-ce que parce qu'ils possèdent que la moitié des gènes de leur mère. Hein, puisque vous savez sans doute que les abeilles naissent des ovules fécondés de la reine, mais que les abeilleux naissent par parthénogenèse d'une moitié du génome de la reine. Donc ils n'ont que la moitié des chromosomes des ouvrières. Qu'est-ce que ça leur donne comme capacité en plus ou en moins? On n'en sait rien. Donc votre question est extrêmement intéressante, mais à mon sens, elle est aussi intéressante parce qu'elle dit quelque chose sur la valeur que nous accordons à certains comportements par rapport à d'autres. Et c'est vrai que c'est des critères qui sont extrêmement, extrêmement subjectifs.
Donc maintenant que vous avez écouté cette formidable conférence, comment vous allez regarder vos abeilles demain?
Ben on les regarde déjà avec amour, donc ça ne va pas changer grand-chose.
Ça la conforte, ce qu'on pense, parce qu'on étudie les abeilles depuis de quelques années quand même. On connaît assez bien notre sujet, on ne sait pas tout, mais on le sait bien. En fait, ça nous conforte.
Est-ce qu'il y avait des points qui vous ont étonné?
Étonné, je ne sais pas. Peut-être sur l'intelligence des abeilles, on en a appris un peu plus sur l'intelligence. Peut-être que vous étiez déjà au courant.
Au syndicat, ils ont invité le chercheur du CNRS de Toulouse qui nous a expliqué les tableaux, etc. etc. Bon, c'est génial, mais bon, lui, il a une façon de la raconter différente.
C'est une façon poétique de raconter l'abeille. Parce qu'en fait, il a dit plein de choses qu'on savait déjà, mais il les a racontées avec sa façon à lui et ses mots à lui. Et c'est différent.
Certains aspects, on va pouvoir les diffuser, oui, tout à fait. Surtout sur l'intelligence et le comportement des abeilles. Puisque bon, les recherches font apparaître tous les jours de nouveaux aspects, explorent de nouvelles voies, donc c'est là qu'on s'enrichit.
Est-ce que vous faites des échanges de pratiques?
On côtoie aussi d'autres apiculteurs qui ne sont pas forcément du syndicat, qui ont des pratiques, enfin, confrontent nos connaissances très souvent.
De toute façon, l'apiculture, ce n'est pas une connaissance, on apprend tous les jours. Donc si vous le faites tout seul dans votre coin, voilà, vous êtes un petit apiculteur. On apprend tout le temps.
C'est comme les abeilles, en fait. Voilà, ils disaient qu'elles apprenaient en regardant.
C'est ça.
Donc c'est pareil.
Je disais que du fait que ce soit lancé à l'apiculture, eh bien, ça nous a ouvert sur la vie du monde des insectes qui gravitent autour de nous, quoi. Donc les abeilles sauvages et aussi notre environnement, la nature.
C'est la nature.
C'est la vie de la nature.
Et vous avez changé quelques gestes?
Certainement. Ça fait évoluer, c'est évident. On ne voit plus les choses de la même façon. C'est vrai qu'on devient un peu... Je ne sais pas, ça... très insistant de ce côté-là. On est très éveillé tout le temps, aux aguets. Et quand on voit quelque chose qui ne va pas dans notre sens, très souvent ça l'explique.
Et vous ne seriez pas un peu radical?
Non, on a besoin de tout le monde. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une discussion avec... un éleveur breton sur ses pratiques agricoles, parce que moi je me
disais. Ah oui, il y a 15 jours. Hein.
Ça a été bien chaud. Quoi.
On en parle et puis les gens, ils sont quand même. Ils sont à l'écoute, ils sont sensibilisés quand même. Plus qu'il y a, je dirais, plus qu'il y a 10 ans, ou même. Ouais. Ils sont beaucoup plus sensibilisés. Et par exemple, l'agriculteur chez qui nous, on a nos ruches, Ben, ils sont passés de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture bio.
À cause des ruches qu'on a posées.
Grâce aux ruches. Grâce aux ruches. Mmh. En combien de temps hein?
En 3 ans.
En 3 ans.
Un jour, il a épandu.
Il
a épandu dans le champ en face. Et le lendemain matin, il y avait des tas d'abeilles mortes. Il a dit, il y a mes petits-enfants qui viennent vivre chez moi. Si ça fait pareil que les abeilles, il a, du jour au lendemain, il est passé en bio. Enfin, en 3 ans maintenant.
Oui.
L'an prochain, il est à 100% bio. Mmh.
Ça, veut dire, ça a élevé les consciences.
En fait. Et au premier essaim qu'on a eu, on lui a fait une ruche à lui, et il y a sa ruche. Cette année, il me dit qu'il ne peut pas tirer une règle, parce qu'il a fait du vieux blé en bio, et la production de blé cette année a été exceptionnelle. Jamais il y a eu ça. C'est exceptionnel dans tout. Donc il m'a dit, il s'est fait autant d'argent avec la moitié de la production que quand il était en conventionnel, alors que ceux qui ont fait des fruits, ça a été une catastrophe. Voilà, ça veut rien dire. La sécheresse, ça a été bien pour le blé et pas pour le reste.
Alors peut-être qu'un de ces mercredis soirs, il y aura un agriculteur qui viendra aussi.
Il y en a un qui est déjà venu. Il y en a un qui est venu pour nous expliquer pourquoi il faisait du conventionnel un jour. Il y avait un apiculteur bio, un des plus gros apiculteurs bio de la région, qui était venu pour expliquer aussi pourquoi il faisait du bio. Tu t'en rappelles ? Et comment le bio, la production de bio, était déficitaire par rapport à... Il a les deux, lui, chez lui, hein, du conventionnel et du bio. Et il nous expliquait qu'en bio, il avait 80% de pertes de ruches chaque année, et qu'en conventionnel, il ne les avait pas, à cause du traitement des varroas. Comme quoi, c'est compliqué quand même de choisir entre le bio et pas bio. Pour l'apiculture, par exemple. Donc il faut être modeste dans ses jugements avec les agriculteurs aussi.
Tout à fait.
C'est parce qu'on n'a pas de moyen de lutte efficace en bio. C'est, on ne sait pas faire. J'ai eu des intoxications. Mais j'ai changé mes ruches de place. J'ai eu des pertes par intoxication. Parce que mes ruches étaient pas loin d'un horticulteur sous serre et qui traitait énormément. Et moi, j'avais perdu 80% hein, en 2016. Voilà, donc là, je me suis isolé de ce souci que j'avais pas mesuré au départ. Voilà. Bon, j'ai quelques colonies faibles, là, je ne sais pas si elles vont passer l'hiver. Mais après, là, la majorité, ça va, ça passe bien.
C'était la soirée avec Jean-Claude Amezen au Conseil départemental de la Haute-Garonne. Merci à tous et à toutes. Merci au syndicat des apiculteurs de Midi-Pyrénées. Son et mixage, Claire Bijoux, Radisound.
La petite abeille lui avoua tout.